premier rang avec le Vanuatu. Le Vanuatu, il y a 10 000 habitants. C'est plus facile.
Freddy, venga ver.
Freddy, viens voir.
Qu'est-ce qui se passe? Voilà.
La gente vive muy feliz en Barú.
Dis-moi, les gens sont malheureux à Barú?
Feliz.
Feliz?
Si, señor.
Ils sont très heureux, monsieur.
Salut, feliz. Yo que no soy de aquí, vivo feliz.
Moi, je suis pas d'ici, mais je suis très heureux.
Tu ne te préoccupes pas del futuro.
Tu ne te préoccupes pas de l'avenir. Merci, Freddy.
Merci à vous, monsieur.
Le déjeuner servi.
J'y vais.
Freddy.
Arte Radio Francia.
Freddy.com.
Freddy.
Universidad de los Andes.
Que diga da luz, después le pongo un letrero muy grande de nube blanca que diga da luz, porque cuando a da luz sea señorita y alguno le quiera hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El que no vuela no sube.
A ver a da luz en la nube,
porque si no vuela no llega. Vaya a molestar ninguno, allá en las nubes con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno. Si te preguntan cómo se sube, decirle que muchos se han perdido. Para ir al cielo creo que no hay camino. Nosotros dos iremos en una nube, porque si no vuela no sube.
A ver a la luz en la nube,
porque si no vuela no llega ya.
A ver a la luz en la inmensidad,
voy a hacer mi casa en el aire.
Pa' que no la moleste nadie.
Como esa casa no tiene cimiento, ya en el sistema que he inventado yo, me la sostienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios. Vengo a decirle cuál es el motivo de hacer esa casa en el aire, única forma de vivir tranquilo, porque ese camino ninguno lo sabe. Que no vuela no sube,
a ver a da luz en la nube,
porque si no vuela no llega ya.
A ver a da luz en la inmensidad,
voy a hacer mi casa en el aire,
pa' que no la moleste nadie.
Radio Libertaire 89.4, vous écoutez toujours l'émission Un peu d'air frais, l'atelier du documentaire. Donc aujourd'hui, nous faisons cette deuxième partie en direct. Nous sommes donc avec Catalina Villard, une réalisatrice qui a notamment réalisé les films Les Cahiers de Medellín en 1998 et La Nueva Medellín en 2016. Donc deux films qui sont intrinsèquement liés et dont on va parler aujourd'hui. Donc là, nous écoutions donc ces deux films sur la Colombie. Nous écoutions donc une musique colombienne, voilà. Alors peut-être justement, on va demander à Catalina de nous dire quel était le nom de l'album. Et puis alors là, c'est La Casa en el Aire, le titre.
La Casa en el Aire, oui.
Et alors le nom du groupe, c'est
Escalona, c'est le chanteur.
Voilà, c'est ça. Catalina Villard, j'ai vu que vous aviez été formée à la FEMIS en 1992. Donc voilà, vous avez réalisé quand même un certain nombre de films. Et vous formez aussi aux ateliers Varan, hein, c'est ça. Donc là, on est dans le cinéma direct.
Exact.
Plus précisément. Et vous êtes colombienne en fait, c'est ça, hein ?
Voilà.
Donc il y a beaucoup de films que vous avez réalisés qui sont autour de la Colombie. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement deux films. Donc le dernier a été sélectionné au Cinéma du Réel au mois de mars et qui s'intitule La Nueva Medellín et qui parle en fait d'un bidonville. À Medellín et de la transformation urbaine. Donc, c'est peut-être ce qu'il faut rappeler. Donc, ces deux films, en fait, ont été réalisés à une vingtaine d'années de distance. Et sont, c'est un peu la suite du premier, même si ce n'était pas prévu comme ça au départ. Le premier a été réalisé pour être un film unique, j'imagine. Et puis, 20 ans après, une nécessité s'est faite de réaliser un deuxième film. Donc ce qu'il faut rappeler, je pense tout de même au niveau du contexte, c'est que Medellín, c'était le fief de Pablo Escobar. On en a beaucoup parlé en France. C'est pendant la grande période des cartels de drogue, dans les années 80 et dans les années 90. Donc Pablo Escobar est mort, a été tué en 1993. Mais toute cette ambiance a marqué la ville. Et les films en fait s'inscrivent dans ce contexte en fait. Donc on peut peut-être déjà commencer par peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est venue l'idée déjà du premier film et puis du deuxième aussi.
Bonjour et je suis très contente d'être à Radio Libertaire, voilà. Et les premiers films qui effectivement étaient que j'ai tourné en 1997 étaient dans un tout autre contexte que les deuxièmes. Effectivement, c'était ça qu'on connaissait de Medellín, Pablo Escobar, mais Pablo Escobar n'était que la pointe d'un iceberg beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que comme toute la drogue n'est que l'iceberg d'autres problématiques, des inégalités sociales. La drogue n'est que les carburants d'un conflit qui a servi à tout le monde, y compris au gouvernement, y compris aux douanes françaises, au monde entier. Donc le problème n'était pas Pablo Escobar, c'est la tête du monstre qu'on a pris à l'époque, les monstres qu'on a dénoncés à l'époque. Mais c'était pas lui, il était monstrueux, bien sûr qu'il était monstrueux, il était terrible, il a fait des choses exécrable et atroce, mais enfin c'était pas lui ni la cause ni la seule condition. Il y avait une pauvreté extrême qui reste toujours dans ce pays, des inégalités sociales gigantesques qui sont toujours là. Et à l'époque, ce quartier Santo Domingo Savio, c'était un quartier complètement ignoré de tous. C'est-à-dire que c'est des quartiers, ça je le raconte dans les deuxièmes films. Un tout petit peu. C'est-à-dire, c'est des quartiers qui se sont formés comme la plupart de quartiers en Amérique latine. C'est-à-dire que les Espagnols sont arrivés, ils ont fait des centres, ils ont fait un centre-ville. Et après, tout le reste, les terres appartenaient, et c'est les grands problèmes colombiens, c'est l'appartenance de terres. C'est-à-dire que les terres, c'est le problème de la Colombie. À qui appartient la terre et comment la terre... Et donc, les terres appartiennent à des grands propriétaires terriens. Et souvent, les gens s'organisent pour prendre des morceaux de terre autour de villes quand ils viennent de problèmes de violence, de famine, des réfugiés, du pays lui-même, qui est un pays en conflit depuis 5 siècles, on va dire. Mais bon, plus précisément et de manière très, très aiguë, depuis 60 ans. Et donc, du coup... À peu près il y a 60 ans, donc quand ce conflit gigantesque était dans les campagnes d'Antioquia, c'est-à-dire du département de Medellín, comme de toute la Colombie, il y a énormément de gens qui se sont installés là, beaucoup d'entre eux analphabètes, qui venaient soit fuir de la violence d'une violence terrible qui s'était installée dans les campagnes entre libéraux et conservateurs, une grande guerre qu'il y a eu dans les, voilà, dans les années 50-60. Et ils se sont installés en prenant de terre et en construisant des quartiers brique après brique. Et quand ils réussissent à s'installer, quand il y a même des lois un peu précises qui varient avec le temps, mais s'ils arrivent en 6 mois à trouver, à installer des systèmes d'eau, d'électricité, où ils arrivent à installer un deuxième étage, où ils arrivent à faire des rues, etc., on ne peut plus les expulser. Parce que ça veut dire que les terrains n'ont pas été utilisés par les propriétaires, ils n'ont pas produit, etc. C'est des terrains qui ne produisent pas. Et donc, ça, on accepte plus ou moins de, voilà. Mais pour un terrain qui a été pris, ils essayent 10, 15, 20 fois de s'installer quelque part, ils sont virés, puis réinstallés, puis virés, puis réinstallés, jusqu'à ce que un petit village, un quartier naît, ce qui était le cas pour Santo Domingo Savio, donc en 64. Donc ça, c'est, je vous raconte l'histoire ancienne. Donc le quartier est né à ce moment-là. J'en fais allusion dans mon deuxième film à cette histoire-là. Et j'arrive beaucoup plus tard. Donc ça, c'est des paysans, la plupart d'entre eux analphabètes, qui arrivent entre eux à trouver plus ou moins un modus vivendi entre eux, puisque le quartier est complètement ignoré du gouvernement. Quand j'arrive en 97, en fait, j'ai connu cette école. Je vais filmer une école en 97. Donc je vais filmer l'école, le lycée Santo Domingo Savio. Et en fait, à l'époque, j'ai fait, ou on m'avait appelé du ministère d'éducation pour faire, des Colombiens, pour faire 10 films sur ce qu'ils appelaient le PEI, projet d'éducation institutionnelle. Et donc, il fallait répondre, la Colombie étant un pays très varié, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir, la forêt amazonienne dans le sud, que le Chocó, qui est la partie la côte pacifique avec beaucoup d'anciens esclaves qui se sont réfugiés là, avec la côte atlantique, avec la cordillère, avec la plaine de qu'on appelle los Llanos Orientales. C'est des populations extrêmement différentes à chaque fois, avec des problématiques très différentes. Et donc, le gouvernement a décidé de tenter de répondre par des projets éducatifs spécifiques à chaque région. Donc, les écoles avaient 40% de leur programme pouvait être décidé par l'école elle-même en fonction de besoins. Donc, elle faisait un diagnostic, etc. Donc, je rencontre comme ça plusieurs écoles et je vais à Medellín je tombe sur cette école que je trouve formidable, le lycée Santo Domingo Savio, qui a été faite avec des sueurs et des sangs, parce qu'avant que les gouvernements fassent ça, c'est une école qui s'est construite comme le reste du quartier, c'est-à-dire avec des luttes, avec des gens qui sont tombés dans la lutte, avec beaucoup de sang, beaucoup de sueur. C'est les élèves qui ont construit l'école brique après brique dans le cours des sports. Et donc, c'est vraiment une école construite par les gens du quartier. Il faut savoir que dans ce quartier, dans ces gens de quartier, l'organisation est souvent menée aussi par la guérilla. C'est une des fonctions de la guérilla, c'est organiser soit les ELN, soit les FARC, c'est organiser, aider les gens à s'organiser pour réussir justement à s'installer, pour réussir à faire. Donc tout ça se mélange étrangement. Donc il y a ça, plus les forces antigouvernementales qui s'installent aussi, les paramilitaires, pour essayer de détruire tout ça. Donc Pablo Escobar ne fait que nourrir les uns les autres, donner de l'argent, des armes, tous ceux dont ils ont besoin pour s'entretuer entre eux, ce qui convient beaucoup à énormément des gens du gouvernement. Bon, donc du coup, je rentre en contact avec cette école qui est donc construite comme ça et qui, à l'époque, en 97, depuis seulement 5 ans, elle est admise par le gouvernement. Enfin, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner un diplôme équivalent. Voilà. Avant, donc, ils ont passé très, très, très longtemps à exister sans être reconnus. Par contre, quand ils ont été reconnus, le gouvernement se l'est déjà approprié en disant, voilà, on a créé un projet éducatif là-bas et spécifique, alors que les profs, ça faisait 20 ans qu'ils luttaient tout seuls, qu'ils avaient leurs idées tout seuls. Donc, c'est des récupérations un peu complexes. Donc, effectivement, le gouvernement fait des choses, mais ils en récupèrent. Donc, il y a une lutte d'histoire. Qui raconte l'histoire? À partir de quoi? À partir de qui? Etc. C'est à qui l'histoire de ce lycée? Voilà. Et donc, ce lycée m'avait beaucoup plu, surtout parce qu'il y avait un prof d'espagnol qui était le principal, qui effectivement s'était posé la question de la déliquescence des jeunes, c'est-à-dire c'est un quartier dont la moyenne d'âge à l'époque était de 21 ans parce qu'ils étaient tués Donc, il y avait énormément de problèmes, des filles qui étaient enceintes très jeunes, entre autres parce que c'était un acte politique pour elles, pour garder la sémence de celui qui allait mourir demain, elle le disait comme ça. Et donc, c'était un problème gigantesque dont les profs se sont appropriés, et parce que les profs venaient des quartiers similaires, donc ils luttaient avec leurs propres convictions. Et ce prof d'espagnol particulièrement, il m'a énormément plu parce qu'il faisait, il disait « la guerre commence quand la parole s'arrête ». Donc, il faut passer par la parole, il faut réhumaniser, il faut redonner des valeurs. Ce n'est pas leur assommer des connaissances, mais plutôt leur donner un sens à leur vie pour qu'ils puissent s'en sortir, pour qu'ils puissent faire quelque chose d'eux-mêmes, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'il a imaginé, et ça, quand je suis arrivée, ça faisait déjà 2 générations qu'il le faisait, ça faisait 25 ans qu'il faisait ça, donc... à un moment donné, je me suis même demandé si le film n'était pas sur cette histoire-là, ça aurait été un autre film. Enfin, c'était tellement immense le travail qu'il avait fait. Il avait demandé à tous ses élèves, année après année, de raconter leur vie par des journaux écrits. Et ton prétexte, en leur disant « votre vie vaut un chef-d'œuvre littéraire. Votre vie a un sens. Donc, pour construire votre vie, il faut faire une enquête. Il faut que vous alliez voir qui sont vos parents, qui sont vos grands-parents, comment ils sont arrivés, de quelle origine ils viennent. » Et donc, c'est comme ça que l'histoire, leur histoire individuelle, rejoignait dans la classe l'histoire collective de tous. C'est-à-dire qu'ils disaient « mon grand-père était paysan, il est venu à cause de la violence, mon grand-père aussi, mon grand-père aussi, mon grand-père aussi. » Donc, ils étaient tous à peu près venus de la même... voilà. Et puis, leurs parents étaient... à peu près ceux qui commençaient plus ou moins à lire et à écrire, et plus ou moins à travailler, mais dans des conditions très difficiles. Donc il y avait beaucoup de mères prostituées, il y avait beaucoup de mères qui travaillaient dans les bars, ou des mères qui faisaient n'importe quoi pour souvenir besoin, et des pères qui étaient des vendeurs. Enfin, c'était toujours de l'économie très, très informelle. Mais c'était très important à la fois de pouvoir se raconter cette histoire et de sentir qu'elle était collective. Donc pour moi, c'était une force inouïe qu'il transmettait. Et donc, j'ai filmé 6 mois dans son cours, en suivant 5 jeunes qui me paraissaient les plus touchants, les plus forts, soit par leur personne ou alors par leur écrit, comme c'est le cas de Juan Carlos, que c'est lui qui est mort. Enfin, c'est le fantôme qui vient dans le deuxième film, disons.
Et qui est finalement beaucoup plus présent dans le deuxième film que dans le premier.
Dans le premier, j'avais un personnage que j'aimais beaucoup, qui est Miguel Lad, qui est mon personnage principal, qui est une femme, une fille. Bon, elle, ça me touchait peut-être à l'époque aussi. C'était une fille. Moi, je l'avais connue à 13 ans, étant enceinte. Donc, ça m'avait beaucoup troublée. Quand je suis venue la filmer, elle avait déjà perdu le père de son premier enfant. Elle en avait un deuxième enfant, elle avait à peine 16 ans, et elle entretenait sa famille.
Et elle arrivait en plus à aller à l'école, enfin, c'est ça qui est assez étonnant.
Et voilà, et donc je me disais comment c'est possible qu'elle fasse des devoirs de maths et des sciences comme si de rien n'était, alors qu'elle n'avait pas vraiment à manger, qu'elle entretenait sa famille, cette espèce de force inouïe. Et d'ailleurs, elle est tellement forte que je l'ai filmée pour le deuxième film, mais c'est un film à part entière. Donc je me dis, un jour, je ferai quelque chose autour d'elle, parce que c'est un personnage trop, trop fort, quoi. Et par ailleurs, effectivement, Juan Carlos a été donc le personnage qui m'avait énormément plu. Mais lui, Juan Carlos est plus pressant qu'on le pense, puisque c'est la plupart des textes qui sont en off dans le premier film sont à lui. Donc lui, c'est le poète, disons, le poète qui traverse le film déjà en off un peu dans le premier. Pour qui j'avais une grande estime pour tout ce que j'ai filmé, mais disons que pour lui aussi, parce que lui était un symbole encore plus fort de... Lui, il voulait être écrivain, il s'est démené pour lire, il s'est démené pour écrire, enfin, pour aller à la bibliothèque centrale, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas, justement, dans le quartier. Et ce qui lui coûtait 3 trajets de bus, ce qui était énorme. C'est-à-dire qu'il fallait trouver l'argent pour ses bus pour descendre à la bibliothèque. Et là-bas, soit il lisait les livres sur place, soit il allait dans les lieux les plus incroyables pour trouver des livres à 3 fois rien, enfin, l'équivalent à 1 euro. Enfin, et il a rencontré des profs qui l'aidaient. Enfin, il avait vraiment une démarche de « je veux écrire », alors que ses parents sont complètement analphabètes. qu'il avait deux frères arriérémentales, enfin vraiment avec des grands problèmes. Enfin bon, c'était presque la caricature de Buñuel, de la pauvreté, enfin un truc trop fort quoi. Sauf lui qui n'était pas absolument pas qui était complètement d'une dignité, d'une force et d'une très belle pensée. Et lui, il a été tué donc 3 ans après le film de Cahiers de Medellín. Et depuis sa mort, je me dis, ça serait bien de venir voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que l'autre immense problème de ce pays, au-delà de la drogue, c'est l'immense impunité. Donc il y a 95, à l'époque c'était 95% d'impunité, les crimes n'étaient absolument pas punis. Enfin, on pouvait punir quelqu'un qui avait volé un portefeuille de quelqu'un de riche, mais quelqu'un qui avait tué 45 personnes, on le laissait en liberté. Enfin,
et j'ai l'impression que c'est surtout les jeunes de 14-18 ans qui sont touchés par la violence, qui sont tués. Comment ça s'explique ça ?
À l'époque, c'était un terreau parfait parce que dans ce contexte de pauvreté, des besoins, d'une certaine ignorance, parce qu'à l'époque, ils commençaient l'école, les parents étaient encore ignorants. Aujourd'hui, c'est ça qui a changé, c'est que les jeunes, ils sont dans l'empowerment, ils se sont pris en main. À l'époque, il y en avait beaucoup d'entre eux, en plus comme les valeurs étaient complètement anéanties, parce que la guerre, c'est ça le problème de la guerre, c'est plus les valeurs, il n'y a plus de morale, il n'y a plus, tout est permis. C'était surtout ce genre de quartier, surtout à Medellín, qu'effectivement, là où il y avait Pablo Escobar et tous les... Et c'était les terreaux parfaits pour aller chercher tout, des guerriers roses, de jeunes paramilitaires, et à l'époque surtout ce qu'on appelait des tueurs à gages. C'est-à-dire qu'il y avait une guerre ouverte entre les gouvernements et soi-disant les monstres de la drogue. Enfin, je dis soi-disant parce que ces monstres de la drogue ont été liés par les gouvernements à la gauche, une certaine gauche colombienne. Donc, ils ont utilisé, alors que ces monstres-là ont nourri aussi les gouvernements. Enfin, bon, bref, c'est très compliqué, c'est très complexe, toute cette affaire. Mais disons que toute cette jeunesse servait, par exemple, comme tueur à gages. C'est-à-dire qu'on leur proposait 200 € pour tuer quelqu'un. Et il le faisait avec un double... Ça a toujours été très complexe parce qu'il le faisait par amour, souvent. Il faisait par amour à leur mère, par exemple. Parce que comme ça, la mère pouvait acheter un frigo. Ou parce que la grand-mère était malade. Donc, il fallait payer l'hôpital. Donc, ils faisaient les signes de croix et ils allaient tuer. Voilà. Après, tout ça... Bien sûr, et c'est quand je suis arrivée à Medellín, ça avait fabriqué déjà une immense déliquescence, c'est-à-dire qu'ils s'étaient beaucoup entretués déjà entre eux, les armes circulaient avec une facilité étonnante. Et donc ça aussi, il y en a d'autres responsables, les vendeurs d'armes, ceux qui les laissent circuler, enfin c'est complexe. Mais en tout cas, elles circulaient relativement facilement et c'est devenu une guerre très fratricide parce qu'il suffisait que l'un ait tué le cousin de l'autre pour que ça fasse un gang, on va tuer. Donc c'est une espèce de guerre de gang qui n'était plus complètement liée, même si à l'origine était liée par les FARC de ce côté, les paramilitaires de l'autre, machin. Petit à petit, c'était plutôt des bandes de vengeance. Mais ça a toujours existé comme ça en Colombie, la vengeance, puisque par exemple Uribe, qui était le président d'extrême droite, qui était si aimé, ses parents ont été tués par les FARC. Les FARC sont nés parce que les Marulanda, les chefs légitimes, les chefs premiers de la guérilla, les FARC, ses parents ont été tués par les militaires. Enfin, ça a toujours été, ils ont tué, donc on les déteste. Enfin, mais c'est un espèce de rouage comme ça, en dehors des visions politiques qui existent un peu encore quand même. Et donc ces bandes-là, juste pour finir ça, ces bandes-là, elles ont... Quand j'ai filmé à Medellín la première fois, c'était un quartier qui était sans aucune loi. Les militaires n'y arrivaient pas, la police n'y arrivait pas, il n'y avait pas la présence de l'État, aucune sorte de... Et par contre, il y avait énormément de gangs qui sont très tués, et donc qui étaient hyper territorialisés. Je ne pouvais pas, si on vivait dans un point, on ne pouvait pas... Il y avait des gamins pour aller à l'école qui devaient faire tout un tour immense pour arriver à l'école, parce qu'ils ne pouvaient pas traverser par le quartier X, qui était le quartier de leurs adversaires. C'est dans ce climat-là que j'ai filmé le premier film.
Et du coup, quelques années après, donc dans le deuxième film, on a l'impression que, tout a changé. À la fois, là, il y a une rénovation, une amélioration, on va dire, des institutions, de la construction de avec une bibliothèque, un métro aérien. Et puis un peu une reconstruction aussi une tentative en tout cas de reconstruction d'un état de droit, on peut dire, dans ce coin. C'est cette modification-là que vous avez montrée dans le deuxième.
C'est vrai. Après, la manière dont je suis arrivée au deuxième, et pour venir à cette question, mais la manière dont je suis arrivée au deuxième film, c'est j'avais un peu en tête, depuis peut-être dans un coin de mon âme, de faire quelque chose sur le jeune Juan Carlos, et sur l'impunité, et sur cette question-là. Je ne trouvais pas... En plus, j'avais peur même, littéralement. J'avais peur de revenir dans ce quartier. J'ai filmé un moment déjà hyper dangereux, mais c'est devenu en 98. Mais dans les années 2000, quand je suis allée montrer le film, on m'a dit « Monte pas, va pas dans le quartier, c'est pas la peine. Enfin, là, c'est fini, là. » Et ça durait jusqu'à 2004, à peu près. Donc, je laissais tomber, on va dire. Je l'avais dans le coin de la tête, mais je me suis un tout petit peu éloignée. Voilà. Et après, il y a 3 ans à peu près, c'est eux-mêmes, certains d'entre eux, qui m'ont contacté et qui voulaient revoir le premier film, ils m'ont contacté par Facebook, dans la nouvelle technologie, et ils ont contacté le producteur du premier film aussi, en disant on veut revoir ce film, parce qu'ils ont quelqu'un a mis 10 minutes de ce film sur Internet, et ils voulaient le voir en entier. Ils ont fait même un groupe Facebook, et ils ont dit, voilà. Et donc j'étais par hasard aussi avec les ateliers Varan, on faisait un atelier à Cali, donc j'étais pas très loin, et je leur ai proposé plutôt de venir leur montrer le film, plutôt que leur envoyer. En plus, ça me faisait plaisir de les voir, et ils ont commencé à m'écrire. Ah oui, super, parce qu'il faut que tu viennes voir comment notre quartier a changé, que tu viennes voir comment on a changé, comment on a survécu, comment on s'en est sorti. Maintenant, on a une superbe bibliothèque, ça n'a rien à voir. Et en même temps, ton film est très utile pour nous, pour montrer à nos enfants ce qu'on a vécu, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, et donc ils étaient assez fiers d'avoir, disons, d'en être là, mais par rapport à leur histoire, disons. Donc, je suis allée les voir et on a projeté avec Yves de Peretti, qui est à la fois mon compagnon et c'est lui qui a fait l'image de mon deuxième film et qui était complètement solidaire de toute cette aventure. Donc, on est allés ensemble à Medellín pour montrer le film. On a déjà filmé cette rencontre qui était très, très, très émouvante, parce que déjà dans le film, il y a pas seulement Juan Carlos qui avait été tué, mais il y avait aussi le deuxième mari, le deuxième compagnon de Miguel Lad qui était mort, dont la fille, la petite qui aujourd'hui a 18 ans, mais qui à l'époque était un bébé, qui est dans mon premier film, n'avait jamais vu son père parce qu'il était mort très vite après. Donc, il était hyper ému de voir, entendre. Il n'avait même pas de photo de son père. Donc, tout ça a été très émouvant. Et de rencontrer tous ces gens-là qui étaient hyper fiers de me dire, voilà, maintenant on est prof, maintenant... Il y en a beaucoup qui ont fait des études supérieures, ce qui n'était vraiment pas gagné d'avance. C'est-à-dire la directrice de l'école du lycée dans mon premier film, que j'avais questionné, ils m'avaient dit qu'ils ont destiné à l'économie informelle. Jamais ils iront à l'université. C'est inimaginable. Enfin, elle-même, la directrice d'une école, dire ça. Et quand je suis arrivée, que la plupart avaient fait des études supérieures, qu'ils avaient en tout cas tous obtenu le bac, et beaucoup d'entre eux aient pu faire des choses à l'université, qu'ils travaillaient tous de manière très fière, qu'ils en étaient sortis, qu'ils construisaient leur maison, etc. Enfin, c'était important. Donc, c'est ça qui m'a donné envie. Effectivement, et donc je vais pour cette projection, puis j'ai découvert cette immense bibliothèque au milieu de ce quartier et à l'endroit même où la bibliothèque, où le quartier à l'époque était les plus dangereux, ça s'appelait le trou. Donc à cet endroit même, à cet emplacement même, cette immense bibliothèque noire, elle n'était pas couverte par le voile qu'on voit dans le film à ce moment-là. 3 rochers noirs dont l'architecte, qui est un architecte de Barranquilla colombien, et avait déjà voulu évoquer les deuils par ses parois noires. Il avait rochers parce que c'est dans la montagne. Enfin, la chose est très pensée, mais c'est quand même un monument. Voilà. Et la mairie avait de son côté effectivement décidé, c'était une mairie nouvelle, on va dire, avec des il y a une époque des nouveaux maires à Bogota, à Medellín, à Cali, qui effectivement ont pensé vraiment différemment de la ville. Déjà qu'ils n'ont pas volé l'argent de la ville pour la première fois depuis longtemps. Ils ont l'argent des impôts locaux, etc., existait relativement, donc ils pouvaient faire des choses. Et ils ont pensé, Sergio Fajardo, puis après bon, Salazar, qui est dans mon film, ces deux mères-là qui ont effectivement pensé de leur bureau et avec leurs idées, une nouvelle projection d'une ville, aussi pour la rendre attractive, pour qu'on puisse investir, pour que l'argent puisse venir, pour que ça produise. Donc c'est quand même, voilà. Et donc ils font, bien sûr, il y a aussi beaucoup de travail social, il y a énorme, Medellín, c'est une ville hyper active, les gens bougent, c'est très fort, et les associations sont très fortes et très actives, donc il y a énormément de des coopératives de travail social, de machin. Donc,
et du coup, alors, c'est tout ce... toutes ces associations, tout ça, c'est quelque chose de récent ou déjà à l'époque où il y avait beaucoup de violence, les gens étaient aussi très solidaires, très unis hein.
Ah, très, y a des, ça existe depuis, je crois que la violence engendre ça.
D'accord.
C'est-à-dire que il faut, c'est souvent les femmes d'ailleurs, parce que les hommes sont à la guerre, parce qu'ils sont seuls, parce que ils, voilà, donc c'est souvent par elles que qu'énormément de résistances passent dans les lieux les plus durs de Colombie. Ça disons, ça toujours existe, enfin, ça toujours. Oui, toujours, parce que ça fait très longtemps qu'il y a la guerre, mais ça a toujours existé. Là, ce qu'il y a aussi, c'est que la, disons, la mairie commence à les reconnaître. Par exemple, les associations de communautaires, là, les juntas de action communale, les comités de quartier, qui existent en Colombie depuis à peu près 50 ans, 55 ans, et sont enfin reconnues, enfin elles étaient méprisées par la mairie de Medellín les reconnaît vraiment, leur donne un tout petit budget participatif, mais il existe pour la première fois, parce qu'avant ils trouvaient leurs propres ressources et ils travaillaient bénévolement, etc. Là, ils ont un petit peu d'argent. Enfin, la contrepartie de ça, c'est que du coup, comme ils ont de l'argent, il y a de l'envie. Et donc, ils se battent pour d'autres raisons. Enfin, maintenant, chaque avancée, c'est ça qui est très complexe. C'est qu'effectivement, il y a des avancées, mais chaque avancée engendre un problème. Donc, je ne peux pas dire que c'est bon ou mauvais, quoi. Mais je constate que... Voilà.
Et alors, du coup, on comprend donc le choix des parents. Hein, dans les personnages, on a les parents de Juan Carlos, donc, qui a été tué. Donc, ce sont des personnages importants du film. Et après, il y a aussi Manuel. Est-ce que c'était un des jeunes que vous avez filmé aussi à l'époque? Comment s'est fait aussi le choix de ce deuxième personnage, on va dire?
Ah oui, alors Manuel, je l'avais rencontré dans mon premier film. Il était un grand copain de Juan Carlos. Ils travaillaient beaucoup ensemble. Il aimait beaucoup écrire. Donc, c'était les deux choses qui les unissaient. Quand il était tué, ils étaient en train d'écrire. Le film ne le dit pas, mais enfin, mais ils étaient en train d'écrire ensemble, donc ils étaient vraiment proches. Ça, d'une part. Par ailleurs, je filmais Manuel effectivement dans mon premier film, mais je l'ai pas mis au niveau de personne. Enfin, finalement, je l'ai coupé au montage. Mais à l'époque, il s'est chargé justement d'une radio communautaire qu'il avait créée lui-même. Donc, il avait déjà quelque chose de faire, quelque chose pour la communauté. Par ailleurs, quand j'avais fait mon premier film encore, j'avais installé, comme je filmais des gens très pauvres et démunis, etc., et en plus des adolescents, je voulais qu'ils sachent ce que je faisais, c'est-à-dire qu'ils soient complètement acteurs de ce que j'étais en train de faire. Et donc, le producteur m'a suivi dans cette démarche, et donc on a pu créer un atelier vidéo parallèle au film. Donc, l'atelier vidéo a servi à la fois pour moi, pour les connaître, mais aussi pour leur donner quelque chose et aussi pour qu'ils connaissent qu'est-ce que c'est qu'un plan, qu'est-ce que c'est qu'un personnage, qu'est-ce que c'est qu'est coupé, qu'est-ce que c'est que manipuler les images, etc. Donc, après, c'était une affaire de confiance. Donc, c'était, disons, dans les... Et Manuel a pris cela très au sérieux et il a gardé cet atelier après même notre départ. D'ailleurs, on a essayé à un moment donné de voler les caméras. Il a presque mis sa vie en danger pour les sauver. Enfin, il était... Et donc, du coup, après, quand j'ai fait un atelier Varan à Bogota, j'ai voulu que deux personnes que j'avais filmées, qui ne sont pas dans mon premier film, viennent faire l'atelier, dont Manuel. Donc Manuel, on a continué, c'est le seul avec qui j'ai continué un peu en liaison, puisqu'il a continué à faire un peu de cinéma. Puis après, il a lâché parce qu'il voulait faire ses affaires politiques. Mais j'étais plus ou moins en contact comme ça avec lui. Et quand je suis revenue, j'ai appris qu'il était, ça faisait 2-3 ans que je n'avais pas de ses nouvelles, mais j'ai appris donc qu'il était président d'Action Communautaire. Je me suis dit, c'est formidable, quoi. C'était, moi, à 16 ans, c'était son destin. Depuis qu'il avait 16 ans, il avait cette espèce de volonté d'aider les autres, de faire quelque chose pour la communauté. La communauté passait toujours avant tout. Et puis, c'était celui qui avait une capacité politique très forte des questionnements de cette bibliothèque.
D'ailleurs, il questionne, et c'est un peu aussi ce qui nous a plu dans le film, il questionne beaucoup la démarche, en fait. Est-ce que c'est parce qu'on modifie le quartier, que la structure de quartier, l'architecture de quartier, que le quartier va bouger? Ou est-ce que c'est parce qu'on fait vivre les gens ensemble que le quartier va bouger? Enfin, c'est le de qui l'histoire de l'œuf et de la poule, quoi. Qu'est-ce qui fait il questionne beaucoup. Et est-ce que ce sont des questions qui viennent également dans le quartier avec les habitants? Parce qu'on voit ce jeune homme, donc Manuel, qui rencontre le maire. On voit également des étudiants qui étudient un peu l'urbanisme et l'organisation de ce quartier. Et que se passe-t-il pour les habitants? Qu'est-ce qu'ils en pensent?
En fait, Manuel est le directeur du comité. Et c'est vrai que je l'avais filmé. Peut-être qu'ils ne vont pas être très contents que je vais montrer le film, parce que j'avais filmé beaucoup de réunions. C'est les comités entiers. Il incarne les comités, mais c'est la pensée d'un comité tout entier. Et en fait, c'est un tout petit peu ennuyeux dans un film, les réunions d'un comité. Donc du coup, j'ai coupé. C'était très intéressant. Parce que ce qu'ils disent, c'était passionnant, mais c'était pas très cinématographique, on va dire. Donc du coup, j'ai fait cette impasse de garder que la représentation, enfin, disons que l'essence de ce qu'il fait le comité à travers son président. Mais lui, il représente un comité tout entier, donc plusieurs personnes qui se sont posées ces questions et qui sont très contrariées, surtout de voir effectivement l'histoire racontée autrement. Puisque la bibliothèque, elle est là depuis 2007 et qu'eux, ils sont là depuis 60 ans. Et que tout d'un coup, la ville s'est mise à raconter une histoire de ce quartier comme s'ils avaient toujours été là. Donc ça les trouble énormément. Et qu'effectivement, il y a une espèce... la mairie a beau expliquer qu'il y a des parties du terrain qui sont plus glissants que les autres, mais c'est quand même un peu étrange d'avoir cette immense bibliothèque archi-construite qui a coûté une fortune et qui d'ailleurs dont l'argent n'a pas suffisamment été bien dépensé, puisqu'ils n'ont pas utilisé peut-être les bons matériaux, etc. Bon, très vite après, elle se dégrade, il y a des plaques qui tombent, donc il y a le voile qui, pour le film, est formidable parce que ça la rend très, très emblématique, métaphorique, etc. Ça permet de raconter autre chose aussi avec la bibliothèque. Mais c'est vrai qu'ils questionnent alors qu'ils voient que leur maison tombe, par exemple celle de parents de Juan Carlos, qui tombe et que personne ne la reconstruit, et que, alors qu'ils investissent énormément d'argent dans la bibliothèque. Donc il y a un truc qu'ils ne pichent pas bien. et pourquoi il y a autant d'argent pour certaines choses et pas pour des besoins absolument basiques, même s'il y a des besoins basiques qui ont été un peu résolus. Par exemple, ils ont de l'eau. Enfin, maintenant, l'eau est gratuite pour eux. Et il y a des besoins de transport, même le métro-câble.
Donc, c'est un téléphérique, hein, pour ceux qui ne savent pas. On voit de très belles images, d'ailleurs, de ce téléphérique.
Et certes, c'est un téléphérique. Et je fais comme si tout le monde avait regardé le film.
C'est bien.
Moi, j'aimerais quand même qu'on, parce que je trouve que c'est vraiment le cœur du film, qu'on parle en fait de ces conditions de logement en fait des habitants et de ce qu'on leur propose aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on va voir les parents de Juan Carlos, on leur propose un logement social. Moi, j'aimerais un peu qu'on parle de ça.
Oui, j'enchaîne avec la fin de sa question et oui, c'est vrai que donc du coup. Au moment, ça c'est l'autre problématique de Manuel, au moment où ils sont sentis qu'ils pouvaient faire communauté, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire qu'au moment où ils réussissent, où ce comité s'obstine à dire Et en plus, c'est ça que moi, ça m'a touchée, parce que c'est ça que le prof les a enseignés. C'est-à-dire cette espèce de collectivisation de la parole, c'est notre histoire, c'est à nous tous. Donc, c'est avec cette force. Et il ne faut jamais renier notre passé. Il faut dire d'où on vient pour mieux avoir la force, etc. Donc, une fois qu'avec cette force qu'ils ont réussi à construire et à faire communauté et à être même fiers de leur histoire, c'est-à-dire au lieu de dire les pauvres machins qui... Non, on est des fils des paysans super forts qui ont réussi à faire ce quartier comme ça. Enfin, tout d'un coup, c'était leur immense fierté. On vient détruire quelque chose. À ce moment-là, arrive la ville prétentieuse, comme dit Juan Carlos. Juan Carlos, qui l'avait écrit 17 ans avant, sans savoir que ça allait venir comme ça. Mais arrive avec une immense proposition, certes, qui peut produire des choses, mais détruire énormément du tissu social. Et donc, effectivement, les parents de Juan Carlos, qui ne savent pas lire ni écrire, qui vivent dans ce quartier de petits boulots et qui peuvent soit vendre des petits pains aux voisines, la mère, ou faire des ménages par-ci, par-là, à des gens qu'ils connaissent dans leurs alentours, parce que Medellín leur paraît loin. Les centres de Medellín, pour eux, c'est... Pour les jeunes, ça ne l'est plus. Et d'ailleurs, le métro aide à que ça ne les soit plus, mais eux, ils se sont habitués à que le centre soit inaccessible et lointain. Et donc, ils vont pas... Et donc, le père aussi, qui vit de ramasser des bouteilles en plastique, tous les voisins lui donnaient des bouteilles plastiques pour qu'il puisse les vendre à 3 centimes, mais c'était avec ça qu'il bouffait, ou en peignant la porte du voisin, ou en faisant, voilà, c'était son... Donc c'est un tissu social très... qui arrive. Et donc ils ont la proposition, la nouvelle grande proposition de la ville, c'est puisque la maison est tombée, puisque vous avez un problème, on construit des immeubles à l'opposé de la ville, loin de tout, dans un espèce de no man's land, là où il y a la campagne, on fait la ville. Et donc, ils inventent ce que la France a inventé dans les années 60, qui s'appelle la banlieue, avec des grandes tours, voilà, et qui sont des bombes à retardement. Et on le sait maintenant. C'est des bombes à retardement parce que ça fabrique des gens isolés, des gens coupés, des gens qui ne se retrouvent pas en communauté, ou alors qui se communautarisent, mais de la mauvaise manière, si je peux dire. Et donc c'est ça la proposition. En plus, pour des gens comme les parents de Juan Carlos, qui sont des paysans, qui avaient une maison certes très un peu précaire, mais avec un petit jardin, avec un potager, avec des poules, donc ils avaient quand même un contact avec la terre, avec et ils étaient en Colombie à 6 niveaux d'habitation, donc on paye les impôts par rapport à ses revenus, avec le lieu où on vit. Donc ça peut être ça s'appelle des strates, donc strates 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6, 1 pour les plus pauvres, 6 pour les plus riches, et donc on paye les impôts en fonction de ça. Eux, ils vivaient strates 1, donc ils ne payaient pas d'impôts, il y avait beaucoup de choses qu'ils ne payaient pas, dans les banlieues, puisque c'est des immeubles modernes, puisque ça a été fait pour eux, ils ont strates 3, donc pour la première fois, ils vont payer. Donc c'est un espèce de truc de fou parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. On leur donne un appartement qui n'est pas complètement fini. Vous l'avez peut-être vu, aperçu dans le film, mais les murs sont en ciment, la terre, le sol n'est pas, enfin, en terre, enfin, il n'est pas fini. Donc c'est à eux de finir cet appartement avec l'argent. Ils doivent payer une administration, ce qui leur est jamais arrivé. Ils sont au troisième étage, ils n'ont jamais vécu en hauteur, enfin, etc., etc. Ça veut dire c'est une mort lente pour eux.
Et alors quel d'après les habitants, quelle est la solution en fait? Parce qu'ils vivent dans un habitat très précaire, de maisons de carton, de bois, on voit qu'il y a un incendie. Alors ils demandent du ciment. Quelle serait la solution en fait pour être en adéquation avec ces habitants? L'envie de vivre mieux, mais sans être complètement déplacé.
Bah, je pourrais pas complètement répondre parce que je pense que c'est complexe aussi pour eux et que les habitants, ils sont nombreux et avec des réponses très différentes par rapport à leurs besoins et leurs envies. Donc c'est très complexe de répondre à leur place. Le film n'explore que, enfin, ne soulève que des questions. Je n'ai pas de réponse, ce n'est pas mon rôle. C'est aux politiques, aux urbanistes de les penser. Enfin, j'invite les gens à penser, disons. Ce n'est pas le principe d'un film, ce n'est pas des données complètement les réponses. Mais disons que je pense que pour eux, ce qui est, en tout cas pour la Junta d'Action Communale, pour Manuel, il y a quelque chose qui ne qui n'a pas été entendue entre leurs besoins, y compris de... Mais qui est très compliqué, parce que c'est encore une fois, c'est un problème d'inégalité sociale. Donc, c'est gigantesque en programme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... ce n'est pas leur donner un tout petit... Ce n'est pas du paternalisme qu'ils demandent aujourd'hui. Ce n'est pas donnez-nous un tout petit peu plus d'argent pour maintenant. Ça, c'est ce qu'ils pouvaient demander les parents de Juan Carlos. Donnez-nous un tout petit peu plus parce qu'ils ont plus nourri par les dons du gouvernement qui les a appris, parce que c'est bien comme ça, ils se taisent. On vous donne et vous vous taisez. Ça marche aussi en France. On a la sécurité sociale, on a le machin, comme ça on se tait. Enfin, vous l'avez, maintenant vous vous taisez. Ce qui est formidable d'avoir certaines choses, mais il y a d'autres qui empêchent même la pensée, qui empêchent même la transformation profonde de certaines choses. La nouvelle génération, celle dont j'ai beaucoup l'espoir, et d'ailleurs elle est active dans le cinéma, elle est très présente dans plein de choses, donc je compte sur eux, sur les jeunes. Ils se font moins avoir. En tout cas, là, politiquement, ils ont très fort. En Colombie, c'est une génération, peut-être parce qu'elle a grandi dans la guerre, parce qu'elle a grandi dans les problématiques, c'est une génération qui réfléchit énormément. Et je crois que pour Manuel, c'est un vrai changement de fond, c'est-à-dire de dire inverse, à qui sont ces maisons, ne serait-ce que ça, enfin, donnant des vraies valeurs à cette terre-là, mais pour tout le monde. Les maisons qui ont été construites en bois, comme dit l'autre femme, il n'y a pas de raison que ça ne leur appartienne pas. C'est pas, il faut qu'on leur donne la possibilité d'appartenance des terres, parce que ça prend très très longtemps aussi. Ils envahissent, mais ça ne leur appartient pas. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont des énormes changements, mais...
Donc là, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ce film donc, qu'on a vu au cinéma du réel, est-ce qu'il va être vu quelque part? Enfin, est-ce qu'il va sortir en salle, à la télévision? Qu'est-ce qui est prévu?
À la télévision, pour l'instant, on n'a pas voulu. Bon, on va voir, il n'était pas fini, donc on va essayer de le remontrer à nouveau. Mais en tant que projet, non, parce qu'il voulait des choses plus formatées, il voulait des entretiens, il voulait des explications plus... Enfin bon, bref. Mais on va tenter de les sortir au cinéma avec un distributeur et dans l'espoir qu'ils sortent fin de cette année, début de l'année prochaine, qui sera l'année France-Colombie l'année prochaine. Donc on va attendre qu'il soit vu dans d'autres festivals, l'espoir de lui donner un peu plus de visibilité avant de le lancer et pouvoir faire la pub dans la mesure du possible à ce film pour...
Bah en tout cas, moi je vous remercie parce que je trouve que c'est vraiment un film qui questionne effectivement cette question du logement précaire et qu'est-ce que... Moi, ça m'a renvoyé par exemple au bidonville de Calais qui a été complètement détruit. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui vivent là? Voilà. Donc je trouve que ça questionne effectivement des
Je suis contente que ça fasse des ponts parce qu'en fait je l'ai beaucoup pensé aussi. Enfin, je peux pas nier que ça fait 32 ans que je vis en France. Ouais, je l'ai fait avec moi-même. Donc effectivement, ça, il y avait des choses qui pour moi retentissaient, y compris dans la manière de se prendre en main des jeunes ou de voilà, qui bien sûr retentissent avec les problématiques françaises aujourd'hui. Donc je suis contente que ça soit entendu.
Donc, je pense qu'on va terminer avec. J'ai choisi un morceau de musique de Medellin, quoi. Alci Walchi, je sais pas comment on prononce, Acosta.
Alci Acosta.
Voilà. Donc, on va terminer avec cette chanson. Et donc, nous, on se retrouve dans un mois. Merci beaucoup. Hein.
Merci à vous. Merci.
Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. noche como un loco mordió la copa de vino y brilló un cortante filo que su boca destrozó y la sangre que brotaba confundióse con el vino y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es...